Ping-pong. La culture sans limite. Ping-pong.
Ce soir, dans Ping-pong, filles perdues, cheveux courts et garçons qui se trompent de chemin.
Avec l'acteur, garagiste et metteur en scène Pio Marmaille, qui incarne Gérald Jeuneloup malgré lui dans Vendeur, le premier long métrage de Sylvain Desclou.
Et un autre premier long métrage avec la réalisatrice Rachel Lang et son double façon Antoine Dohenel, Salomé Richard, pour Baden Baden, drôlerie estivale existentielle, écarlée en salle demain.
Et ensemble, eh bien, ils nous parleront ce soir de custom, de bricolage, de force de vente, de comédie, de théâtre, de masculinité et d'amour perdu, d'amour de passion.
Mais tout de suite, pas d'amour, mais des informations avec vous, Élodie Forêt. Enfin, peut-être.
Bonsoir à tous. Après avoir agité le débat public pendant des mois, la loi travail est enfin arrivée cet après-midi devant l'Assemblée nationale. La ministre Myriam El Khomri a ouvert le débat parlementaire devant des bancs clairsemés. Les députés ont jusqu'au 12 mai pour plancher sur une cinquantaine d'articles et surtout sur les milliers d'amendements déposés. Dans le journal de 22h, nous serons en ligne avec Yannick Moreau, député Les Républicains de Vendée, opposant farouche au texte. Et tandis que le débat parlementaire commence, l'opposition dans la rue ne faiblit pas. Salariés, syndicats, étudiants et Nuit Debout se sont de nouveau mobilisés aujourd'hui un peu partout en France. À Paris, un rassemblement a eu lieu aux Invalides. Les manifestants tentaient tout à l'heure de rejoindre Opéra. Loin de cette agitation, François Hollande a lui défendu son bilan aujourd'hui lors d'un colloque sur la gauche et le pouvoir au Théâtre du Rond-Point, organisé par la Fondation Jean Jaurès. Un bilan de gauche, a-t-il martelé devant un parterre de ministres faisant miroiter une nouvelle baisse d'impôts, un discours aux accents de campagne présidentielle. Emmanuel Macron hausse le ton contre Carlos Ghosn. Le ministre de l'économie menace de légiférer si jamais le patron de Renault ne tire pas les conséquences du vote des actionnaires sur son salaire. Vendredi dernier, une majorité d'entre eux a désapprouvé la rémunération de Ghosn en 2015, 7 250 000 euros. Mais ce vote n'est que consultatif et pour l'instant, le conseil d'administration a confirmé le salaire du PDG. Le procès très médiatique de Michel Néret, l'ancienne star de la police lyonnaise accusée de corruption, a fait son mea culpa aujourd'hui. « J'étais dans une sorte d'aveuglement », a-t-il expliqué. Michel Néret poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris avec 8 autres prévenus. Alep, ville martyre, aujourd'hui de nouveaux bombardements ont touché un hôpital. Cette fois, il s'agit de raids menés par les rebelles dans la zone tenue par les forces loyales au régime de Damas. Une situation intenable pour les civils. Les Russes appellent au cessez-le-feu. De leur côté, Paris et Londres réclament une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU. Conseil de sécurité qui a adopté aujourd'hui une résolution sur la protection justement des hôpitaux et des centres de secours dans les zones de conflit. Bombarder ces structures est un crime de guerre, a tenu à rappeler le Conseil. Areva dans la tourmente, le journal des Échos a révélé que des anomalies dans l'usine du Creusot seraient dues à des falsifications. Et ce n'est pas anodin, c'est dans cette usine qu'a été fabriquée la cuve défectueuse de l'EPR de Flamanville. Areva va fournir toutes les pièces nécessaires à l'autorité de sûreté nucléaire pour qu'elle puisse évaluer la sécurité des installations. La météo, une carte de France homogène demain, du soleil partout, du nord au sud, et des températures qui grimpent encore le matin, comptez 12 à 13 degrés dans le nord. 15 dans les pays de la Loire et le Sud-Ouest, jusqu'à 18-19 sur la côte méditerranéenne. Et tout à l'heure, on retrouve Zoé Sfès pour le journal de la culture. Qui est-il au sommaire, Zoé, ce soir?
Mais bonsoir Élodie, bonsoir à tous. Eh bien, on parlera aussi d'une nouvelle pas fort réjouissante, la fermeture à Paris de la Comédie Italienne, un théâtre qui était ouvert depuis 42 ans et qui était le seul à pratiquer la Commedia dell'arte baroque fantastique. Pardon, on reviendra dessus. On verra comment le propriétaire a tenté de se battre, parfois avec des moyens disproportionnés, jusqu'au dernier moment.
Mathilde Serrel, Martin Quenéel.
Là, c'est vraiment... C'est beaucoup plus...
C'est quoi? Bon, on est sur une gamme supérieure. Hein.
Bon, bah, on va réfléchir. Born to be wild.
Born to be wild. De lui, on ne dirait pas qu'il monte en gamme comme son personnage de Gérald le fait en parlant d'une cuisine dans son dernier film Vendeur, mais qu'il monte en puissante, la trentaine vrombissante et capable d'inspirer des comparaisons de Marlon Brando à Patrick Devers. il s'en fiche. Parce qu'il a choisi de tout faire. Et certainement pas de tracer une seule route. C'est comme en musique. Il est capable d'avoir été fan d'Ace of Base et d'accompagner en tournée le groupe de punk hardcore Vomit for Breakfast. Alors, au cinéma, après avoir été révélé par Le premier jour du reste de ta vie de Rémy Besançon, qui en fait son acteur fétiche, il a refusé au moins 5000 comédies romantiques. Il a préféré suivre les sentiers de Léa Fazer ou Pierre Salvadori, les déambulations Fesses à l'air des lendemains qui chantent de Nicolas Castro. Ce sera bientôt le nouveau Clapiche, sans oublier son atelier à réparer les motos, Monsieur Pickles. Bref, il a retenu cette phrase de sa mère, sois créatif et insoumis. Il incarne aujourd'hui un garçon qui ne devrait pas régler ses passes au celui de son père, dans Vendeur de Sylvain Desclous. Pio Marmaille, bonsoir.
Ah, qu'est-ce que c'est agréable une présentation comme ça, c'est quand même assez rare. Merci France Culture.
Et j'ai une question pour vous, vous êtes venu en bécane?
Pas du tout, j'ai pris une sorte de taxi car au moins d'accident, c'est plus de 60 000 personnes qui sont au chômage, c'est un empire qui s'effondre.
Un public en larmes,
enfin l'espérons, malgré les 30 degrés de demain, putain.
Merci
à vous, c'est la première fois que je fais une interview sur France Culture, avec toute Pembagouze et tout quoi.
Et votre saucisson.
Oui, alors attendez, j'ai amené du saucisson, j'ai amené de la bière parce que c'est la dernière émission qu'on fait, autant en profiter. Rentrons dans le vif du sujet.
Elle est deux, ou elles sont une. Elles sont deux ce soir à nos côtés, mais pour nous raconter une seule et même histoire, Baden, l'histoire d'une fille égarée qui roule dans une Porsche volée et qui s'est mise en tête de casser une baignoire. Une histoire née dans la tête de l'une, qui se lit sur le visage et le corps de l'autre. L'histoire d'Anna, qui, à l'orée de la trentaine, se cherche encore entre ses histoires d'amour incertaines et sa grand-mère qui décline, entre une cueillette de Mirabelle et une cuite au whisky. Elles, ce sont Rachel Lang et Salomé Richard. Leur film s'intitule donc Baden, et sera en salle demain. Mais si Pio Marmaille, lui, customise des 103 RCX depuis l'enfance, pourquoi, Rachel Lang, l'envie vous est-elle venue de voler une Porsche?
Bah, parce que c'était un peu la voiture qui fait briller les yeux de tous les garçons, et je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi est-ce que mon personnage principal ferait pas ça?
Et alors, Salomé Richard, de vous voir briller à l'intérieur d'une voiture brillante?
Eh bien, c'est brillant.
Surtout quand on a son permis 2 semaines avant le tournage.
Voilà.
C'est formidable.
Dans les deux films, il y a un point commun, c'est un peu l'errement générationnel, on va dire. C'est multiples vies qui pourraient être les vôtres et qu'on a un peu du mal à embrasser ou à choisir. Dans le cas de Gérald que vous incarnez, Pio Marmaille, vous êtes le fils de Serge, qui est un super vendeur, un mercenaire de la vente de cuisine. C'est Gilbert Melki, on fait appel à lui pour fourguer un maximum de cuisine. Vous, vous croyez que vous pourrez régler vos pas sur lui? Vous croyez que vous allez pouvoir être éventuellement ce vendeur? Est-ce que vous... Comme votre personnage, qui finalement se trompe de route, est-ce que vous, vous êtes trompé à un moment, avant de réaliser, je crois, après avoir arrêté les jeux vidéo, qu'il fallait vivre fort?
Attendez, quand vous parlez de jeux vidéo, vous parlez de quel jeu exactement? Parce que là, je suis un peu perdu. Là.
Non,
dans votre vie d'avant?
Non, j'ai pas eu l'impression d'être trompé. J'ai eu peut-être de la chance de grandir dans un cocon familial assez plus que cultivé, parce que j'ai grandi à l'Opéra, à Strasbourg, avec mes parents.
Votre mère,
ma mère était costumière en chef à Strasbourg et mon père a été scénographe aussi, pareil, bossé pour Arte et tout. Et du coup, il y avait une sorte de vivier comme ça, hyper créatif, permanent. Donc c'était assez fou, quoi. Il y avait une sorte de folie. Et c'est ça que je retiens. Donc peut-être que c'est ça qui m'a donné envie de faire mon travail. Mais j'ai pas le sentiment de m'être égaré à un moment. Oui, j'ai pu être un petit con. Quand la première fois, quand tu prends un peu de succès, quand tu fais un film et puis tu te dis ça y est, c'est parti, la vie va toujours être comme ça. Et du coup, tu deviens un peu prétentieux et pénible pour les autres. Et puis après, on se prend une tôle et puis ça se rééquilibre assez rapidement. Et ça, il faut dire merci à la tôle. En tous les cas, je le dis. Après, non, j'ai par rapport à mon travail, j'ai choisi très vite de faire ça, du coup, ça contredit complètement ce que vous venez de dire.
Mais c'est
j'en
pas grave.
Confus.
Ah non, mais
c'est...
on a besoin de poser
un peu,
la question.
C'est votre première fois sur France Culture.
Pour avoir la réponse. Non, mais il faut bien poser la question pour avoir la réponse.
Oui, je l'entends.
Je dis pas que vous êtes comme votre personnage, c'est bien vous me dites.
Non, je suis complètement l'inverse. Après, je suis pas l'inverse, mais en tout cas, il y a eu le seul endroit où je me reconnais dans ce personnage-là, c'est ce moment que tu peux avoir quand on a peut-être le même âge, je pense 30-35 ans, où on se dit, est-ce que je vais continuer à pratiquer, enfin, ou essayer de poursuivre un métier, je dirais, de passion, quitte à ce qu'il ne marche pas, quitte à ce qu'il ne me fasse pas assez vivre, ou est-ce que je vais prendre une direction où je me dis, tiens, je vais faire un métier purement, je dirais, pécuniaro-financier, où je vais pouvoir m'en sortir juste en termes de blé, quoi. Quitte à mettre en retrait mes passions profondes de base, quoi. Et moi, c'est ce qui m'a parlé simplement, parce que ça a pu m'arriver une fois dans ma vie ou deux, de me dire, tiens, voilà, effectivement, ça marche plus assez comme acteur, est-ce que je vais faire autre chose? Est-ce que je vais que travailler à mon atelier de moto? Est-ce que je vais tenter de monter une boîte de nuit avec des partisans fous du sud de la France, quitte à me faire poignarder sur un parking? En tout cas, je ne l'ai pas fait. Merci. Merci au libre arbitre.
Et on précise, dans le film, il hésite, enfin en tout cas, cette voie de passion, c'est de la restauration, en tout cas c'est d'être un chef un peu nouvelle cuisine, et cette voie donc de la raison mais qui n'est pas la bonne, c'est vendeur.
Et qu'on soit cuisinier ou qu'on travaille dans un atelier de moto comme Pio Marmaille, on utilise habilement ses mains, c'est ce que vous a appris notamment votre père, je crois, Pio Marmaille. Et il se trouve que c'est le cas du personnage d'Anna dans votre film Rachel Lang, dans Baden Baden. Elle se montre bricoleuse, en tâtonnant, comme elle tâtonne un peu dans son existence, parce qu'elle n'a pas encore trouvé le métier, la passion de base qui serait la sienne. C'est Lévi-Strauss aussi qui disait que se construire une identité, c'est faire du bricolage. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la dimension peut-être symbolique, en tout cas de ce que représente le côté bricoleuse d'Anna dans votre film?
Je sais pas si c'est le bricolage en particulier, mais en tout cas, oui, d'être actif, ça constitue ce qu'on va être, et de faire des choses. Juste, Anna passe du stade passif où elle subit des choses à tout à coup, ok, je rentre dans l'action, je deviens active, et j'essaye de gagner en joie et de fabriquer des choses, effectivement. Et en l'occurrence, c'est une salle de bain, donc c'est un truc utile, parce que sa grand-mère avait passé une nuit dans la baignoire à pas pouvoir en sortir, donc c'est quand même cool d'avoir une douche pour elle, quoi.
Salomé Richard, cette expérience de fabrication de carreleuse notamment et de destructeuse de baignoire.
Alors moi, faire de la plomberie, c'est quelque chose que j'adore vraiment, et je pense que non, c'est vrai, j'aime vraiment bien ça.
Mais... vous avez un atelier de plomberie comme Pio Marmaille?
Non, pas particulièrement, mais j'adore faire des travaux moi-même, et même si c'est très ambitieux, je pense que j'ai quelque chose d'un peu adolescent et inconsidéré par rapport à véritablement ce qu'il y a à faire. Enfin, je me lance sans vraiment savoir où ça va aboutir, mais finalement ça finit toujours bien jusqu'à présent. Et enfin, j'ai jamais été inondée. mais oui, je crois, comme Rachel l'a dit, que c'est en faisant des choses avec ses mains qu'on devient quelqu'un, quoi.
Je suis le meilleur. Je conquérerai ce qui n'a pas été conquis. J'ai entraîné mon esprit et mon corps suivra. Je suis quoi ?
Le meilleur.
On n'entend rien.
Le meilleur.
On l'apprend.
Vous voulez voir quelque chose ?
Je veux bien que vous me payiez d'abord.
Vous savez ce que disait ma grand-mère ? Que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens.
Mais vous n'allez qu'à passer la soirée avec la grand-mère ?
J'ai un petit service à tout le monde.
T'as besoin de combien ?
Non, j'ai pas besoin de fric. J'ai juste besoin que tu m'aides à trouver un boulot, un mois, deux mois.
Tu te trouves quoi comme boulot ?
Vendeur.
Vous allez comprendre ce que ça veut dire qu'être vendeur. Comprendre que c'est pas quelque chose qu'on apprend en BTS à Action de mes couilles.
Chérie, monsieur me dit qu'il veut venir boire l'apéritif à la maison et il me propose un plan à quatre.
Non, j'ai jamais dit ça.
Bah, je suis désolé, moi, entuber les gens, je sais pas faire. Hein.
Non, mais moi, j'entube personne. Hein. Je vends quelque chose à quelqu'un qui en a besoin, c'est pas pareil.
Bah voilà.
C'est celle-là que je préfère. Vends-moi cette cuisine. On ne chasse pas le lion, on le tue.
On ne chasse pas le lion, on le tue. Gilbert Melki dans une sorte de Matthew McConaughey. Si vous avez vu Le Loup de Wall Street, hein, il y a un petit peu cette scène d'apprentissage qui se fait avec Leonardo DiCaprio et ses cris, ce rugissement du vendeur. Vendeur, le film de Sylvain Desclous sort demain. Et sur le tournage, Gilbert Melki, donc, qui joue votre père, Pio Marmaille, dans le film, qui va essayer de vous transmettre ce métier de la vente tenter d'essayer de justement ne pas vous transmettre ce virus. Il dit que s'adapter en gros aux clients, ça ressemble aussi au métier d'acteur, qu'on s'adapte au metteur en scène. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Je suis d'accord. En même temps, j'ai l'impression que le métier de vendeur, c'est plus et le métier d'acteur. Enfin, moi, je fais pas un parallèle évident et comme ça, je dirais direct entre le métier de vendeur et le métier d'acteur. Mais je pense que c'est au-delà de l'adaptation. Je pense que c'est plus de l'ordre de la personne qui a la parole et de la personne qui écoute. C'est-à-dire la fascination qu'on peut générer autour de personnes qui nous écoutent en leur faisant croire à un moment qu'il va falloir acheter ce robot mixeur plus qu'un autre, et en l'occurrence quand on n'en a pas forcément besoin, et qu'en fait l'écoutant se dit bah effectivement j'en ai besoin quoi, quelque part. Enfin, c'est ça qui me fascine. Alors tout ce que je dis n'est absolument pas clair, faites-moi confiance, ça va se clarifier au fur et à mesure, mais là j'ai besoin de vider mon sac parce que j'en peux plus.
Donc alors videz votre sac.
C'est fait. Non mais quelque part c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a ce qui peut rapprocher le métier de vendeur et le métier d'acteur, c'est cette simplement qu'il y a un auditoire, je dirais, et il y a une personne qui prend la position de parlant. C'est aussi simple que ça, mais je vois pas tant de séduction ni de quoi que ce soit,
ni d'adaptation quand même.
Oui, quelque part.
Rachel Lang,
et c'est parti pour le ping-pong. On attaque le ping-pong.
Il faut, ouais.
Mais vous avez vendu quoi?
J'ai vendu des appareils photo, des imprimantes, des trucs, tu vois, démonstration, machin.
Moi j'ai vendu, ouais.
Non, c'était à Bruxelles plutôt, mais ouais. Mais Strasbourg, ouais, ça on a en commun, Strasbourg a priori.
Moi j'ai grandi à Strasbourg.
Ah, ouais. Moi aussi, c'est fou.
Mais
pas à l'opéra, non.
Ah, non, mais, non. Mais vous étiez où, vous?
Non, moi j'étais à Birch, hein. C'est un village qui est à 25 kilomètres. J'étais au lycée à Strasbourg, t'étais où au lycée?
Pontonnier.
Ah ouais, moi, Fistel.
C'est le côté copain d'avant.
Pas mal, copain d'avant. Pas forcément très, très bon pour les écouteurs.
Mais aussi, précisément, parce que Rachel Lang, il faut y venir à Strasbourg, parce que c'est une ville frontière, une ville transfrontalière aujourd'hui.
Quel l'an 2000, l'an 2000. Quelle année 2000 nous avons passé fantastique.
Quelle rapprochement entre la commune allemande qui est de l'autre côté de la frontière et qui est maintenant réunie avec dans un eurodistrict avec Strasbourg. Quel rôle justement cette ville, elle joue dans votre film, dans Baden-Baden, et peut-être en quoi est-ce qu'elle résonne, elle qui est transfrontalière avec le destin d'Anna, votre héroïne incarnée par Salomé Richard, qui est à la croisée des chemins.
Bah oui, en fait, le film s'appelle Baden-Baden. Il commence à Bruxelles, qui est une capitale européenne. Il part vers Strasbourg, qui est la deuxième capitale européenne. Et effectivement, ben, je vais pas spoiler non plus, on va jamais à Baden-Baden, mais c'est un peu la fausse piste, et puis on part, on quitte le film dans une autre direction. Mais oui, c'était important d'avoir une ville frontalière qui soit comme ça dans l'Europe, et qui soit représentative des croisements et de toutes ces générations qui se croisent dans ces villes frontalières et européennes.
Salomé Richard, vous vous sentez, vous, sinon une capitale européenne, vous qui êtes belge?
Ben, moi j'ai grandi à Bruxelles, et effectivement c'est une ville très cosmopolite, où il y a énormément de passages, il y a la communauté européenne qui se trouve là-bas, et puis c'est un pôle d'attraction pour énormément de personnes qui vivent là-bas, et du coup on entend plein de langues différentes quand on prend les transports en commun, et je trouve que c'est super enrichissant. Ouais, ouais.
Et vous, l'actrice, vous vous sentez une rôdeuse de frontières comme ça, sauter la frontière de...
Ah ben, j'adorerais. Voilà.
Baden-Baden, si on reprend dans l'histoire, c'est le moment où le général de Gaulle fait une pause en 1968, en plein événement, en pleine agitation, en pleine chienlit, comme on disait à l'époque. Est-ce que c'est pas un temps de pause qu'elle vit justement, cette héroïne Anna, un temps de pause dans sa vie pour réfléchir? Alors, on a dit que le général de Gaulle avait rencontré tout et n'importe quoi, y compris l'URSS, pour faire un pacte, mais est-ce que c'est pas ça justement?
Ouais, c'est carrément.
Son temps de réflexion.
C'est carrément ça, c'est un peu le temps d'un dernier été, le temps d'un retour où. Retour dans une ville connue, et en même temps où c'est où tout a un goût un peu lyophilisé, parce que tout est, ça a été quitté depuis longtemps, et du coup on remet de l'eau comme sur le café lyophilisé, et puis ça refait du café, mais ça a pas le même goût que le café, et donc voilà, c'est un peu le dernier été avant de passer à autre chose.
Pio Marmaille, vous buvez de la bière depuis le début de l'émission et pas du café, mais...
Figurez-vous qu'il n'y en a plus. Je suis prêt à en prendre une deuxième à partir du moment où on apporte une. Mais bon, bref, passons à autre chose. Non, par rapport à Baden-Baden, je suis assez curieux parce que par rapport au titre, moi, c'est l'ordre vraiment de l'intime, hein, de ma vie privée. Quand j'étais enfant, j'allais beaucoup au terme de Caracalla. On va encore perdre de l'audimat, je vous le dis, mais tiens.
Au contraire, les termes de Caracalla, vous êtes super.
Attends, les termes de Caracalla, à Baden-Baden, je suis aussi allé à l'opéra là-bas.
Ouais.
Et par curiosité, est-ce que c'est venu de quoi ce titre?
Ah, j'étais au terme de Caracalla aussi.
Fantastique,
beaucoup,
non?
Bah, évidemment, évidemment.
Alors, parlez-nous des termes de Caracalla.
Il faut imaginer 160 000 mètres carrés dédiés à l'eau chaude, aux gens en surcharge pondérale, cancéreux dans la plus grande partie. Russes ou même allemands, de la forêt noire, qui viennent tout simplement se reposer ou prendre un moment de plaisir un week-end, qui payent à l'heure. Parce qu'on paye, dans les bains de Caracalla, on paye à l'heure. On ne paye pas la journée, on ne paye pas une entrée comme ça. C'est 15 euros de l'heure. Donc, c'est un peu select, c'est un peu tendu, tout le monde n'y rentre pas. Okay? Donc effectivement, moi quand j'étais môme, j'y allais beaucoup et je me demande s'il y a un lien. Enfin, ça peut paraître con, mais
ouais, il y a carrément lien parce qu'en fait, il y a
un salle de bain, Dana.
Ouais, il y a un peu la métaphore filée de la baignoire et du bain et du récipient pendant tout le film. Et voilà. Donc Baden Baden, c'est un peu l'eau. Ouais.
Tu viendras voir sur ton truc à photo. C'est un virus.
Ah ouais, bah ouais, il y a des trucs inexplicables hein, qui arrivent avec Internet.
T'as rencontré quelqu'un ?
Ton père me dit, remets dans ton jupon. Ne touche pas à ce ballon, ça c'est pour les garçons.
45 minutes late. This means that we, all of us, will be 1 hour late. What's your excuse ?
Et t'es resté jusque quelle heure dans le bain ?
Jusqu'à ce que l'infirmière arrive le matin pour ma piqûre d'insuline.
J'aimerais bien remplacer une baignoire par une douche, mais j'y connais rien.
Vous allez faire ça toute seule ?
Et le tien, le projet ? Moi, je fais une nouvelle salle de bain pour mamie.
Bah oui, je vois ça, la baignoire en plein milieu. C'est n'importe quoi. T'as pas autre chose à faire ?
Viens avec nous, on va s'amuser.
J'ai aucun désir pour toi, mais qu'est-ce que je peux rien y faire ? À chaque fois, tu te jettes sur moi, là, comme ça.
Nu, désespéré.
Ça marche.
Mamie, si tu veux t'éclater dans l'eau, je t'emmène à Baden-Baden.
Oh, tu te moques.
Bah ouais, je me moque. I see you shining
inside. Baden Baden, c'est un extrait de la bande-annonce. Donc vous avez quelques confettis, des petits morceaux de la mosaïque carrelée que représente cette comédie, donc signée Rachel Lang. Tout tourne autour de votre personnage, Anna Salomé Richard. Donc ce personnage que vous incarnez, vous êtes entouré de mecs maigrichons mais qui font l'affaire. Il y a dans le désordre hein, Swann Harlow, Olivier Chantreau, Lazare Gousseau et Driss Ramdi. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce quatuor de garçons qui parade autour de vous et peut-être de ce qu'il représente pour votre personnage?
Eh bien, je pense que c'est quatre personnages qui gravitent autour d'un seul personnage, mais en fait, on parle de personnages secondaires. Je pense pas que ce soit exactement des personnages secondaires dans le sens où ils reflètent chacun une des facettes de la personnalité du personnage principal que j'incarne. Et après, ils sont assez archétypaux chacun. C'est-à-dire, il y a le meilleur ami, il y a l'amour-passion, il y a le grand un peu maladroit, et puis il y a un possible qui tend vers un ailleurs, quoi. Et du coup, chacun de ces personnages incarne à chaque fois une piste possible pour Anna, pour ce personnage que j'incarne.
Et donc pour vous, dans le jeu, vous vous êtes appuyé dans les scènes qui sont tour à tour tendres et désopilantes, extrêmement bien dialoguées par Rachel Lang qui a aussi signé le scénario. Vous vous êtes appuyé sur justement ces facettes pour révéler une facette différente de votre personnage à chaque fois.
Bah, c'est-à-dire que chacun a un jeu assez différent. Ils incarnent chacun une facette de, enfin une sorte de personnages avec qui on a des rapports différents, donc évidemment le jeu est différent avec chacun de ses partenaires, donc forcément je joue pas pareil avec Olivier Chantreau et avec Swann Harlow, et encore différemment avec Lazare, et encore différemment avec Driss. Voilà.
Il y a un quatuor donc de garçons, mais il y a aussi un trio de garçons, un trio générationnel dans Vendeur. Il y a le grand-père, le père, le fils que vous incarnez, Gérald. Est-ce que c'est pas aussi un film sur ce que c'est qu'un homme un peu en 2016 et où est-ce qu'il peut placer sa virilité, comment est-ce qu'il va se placer dans la trajectoire d'un homme et de ce qu'on peut attendre de lui, notamment lorsque votre personnage va s'illusionner un petit peu sur son métier de vendeur?
Oui, je pense qu'on aborde un peu cette idée de la passation, en tout cas de la figure du père qui, comme ça, à un moment, va se réveiller, je dirais, dans un moment un peu tragique, tu sais, quand tu parles pas à ton fils pendant les années, et d'un coup, tu te dis, il faut que quelque part, je me rattrape quelque part, et j'essaie de faire en sorte que naisse une relation mutuelle. Il y a un peu de ça, il y a un truc de la passation, j'ai effectivement entre le personnage de Serge, de Gilbert, de moi, et les personnages du grand-père qui est là aussi en plus, qui vient témoigner de ça, qui participe à cette dimension-là de la passation. Mais après, là où je trouve que le personnage de Serge, en tout cas le personnage de Gilbert, prend un peu de puissance, en tout cas se sépare de cette simple passation, c'est que l'initiative qu'il a, je dirais, à la base, de simplement aider son fils pour essayer de le re-rencontrer, enfin de le rencontrer tout simplement. Il essaye quelque part, le voyant un petit peu s'auto-dégrader, enfin s'effondrer, enfin en tout cas plonger tête bêche dans un truc un peu beauf, de vendeur, de un peu
une âpre, suffisance,
ouais, une suffisance un peu pénible. Il essaye du coup de protéger, enfin en tout cas de le mettre un peu de le protéger, de le tirer, de le sortir de ça. Donc il y a une sorte de, enfin moi c'est un truc qui me touche quoi, cette figure comme ça du père assez viril, assez je dirais du chef vendeur de génie qui en fin de compte a cette forme de fragilité. C'est ça qui me, une fragilité qu'il a au regard de son fils. Enfin, c'est aussi un truc qui porte sur sa propre vie. Enfin, cette figure-là, je dirais, à la fois hyper masculine, hyper virile, et en même temps hyper quelque part un peu détruit, un peu seul, d'un mec qui le soir va dans un ibis minable, en province, et qui prend de la coke, qui va baiser des putes. Quelque part, moi, ça me parle. C'est-à-dire cette espèce de figure qui en fait n'est pas si
carrossé.
Ouais, c'est ça. Il y a
c'est une virilité qui se fendille
un petit peu bas de gamme, un peu écorché. C'est ça qui m'intéresse, moi. Enfin, en tout cas, ça fait pas écho à ma famille. Mon père ne se tape pas de pute en prenant de la coke, mais enfin, je le pense pas. J'espère. Enfin, en même temps, bon.
En tout cas, il nous écoute.
En tous les cas, on s'en fout. Mais surtout, c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est trouver un peu des figures comme ça qui ne sont pas dans le cinéma, j'entends, ou au théâtre, ou ailleurs. Quand je lis un livre, n'importe quoi, ou télépoche, j'ai besoin d'avoir des choses qui me surprennent, quoi. Pas des figures imposées comme ça de genre dans le cinéma ou dans l'écriture. Et là, c'est vrai qu'il y a eu ça dans le scénario, cette sorte de singularité de personnages et de relations que je trouve rarement ailleurs.
Rachel, pas mal, hein. Il y a quelque chose de très étonnant aussi dans le personnage d'Anna, qui est donc au centre de votre film Baden Baden, et qui, peut-être un peu comme dans la relation entre Pio Marmaille et Gilbert Melki dans Vendeur, entre Serge et Gérald, fonctionne en miroir. On a l'idée que peut-être que vous avez, puisque vous collaborez depuis de nombreux films avec Salomé Richard, travaillé en miroir. On se dit que toute cette histoire, c'est peut-être un peu la vôtre. Il y a le fait que vous avez obligé votre actrice à porter les cheveux courts comme vous aimez les porter.
Oui.
Et c'est le cas ce soir, il y a la relation avec votre grand-mère, mais qu'est-ce que justement vous êtes allé chercher chez Salomé pour nourrir le personnage d'Anna au-delà de son coup de masse très sûr pour casser des baignoires?
Ouais, et ben donc déjà c'est pas du tout autobiographique, j'ai jamais cassé de baignoire, j'ai jamais volé de Porsche, il y a mille choses que j'aurais adoré faire que j'ai jamais fait, mais effectivement j'ai au fur et à mesure des films, puisque c'est le troisième film qu'on fait ensemble avec Salomé, il y a un mouvement comme ça dans mon écriture qui s'est dessiné vers elle, parce que je sais qu'elle écrit, enfin que j'écris pour elle, et du coup voilà, il y a quelque chose qui s'est fait dans l'organique qui fait que je me rapproche dans l'écriture de ce que peut être Salomé.
Et par exemple, alors est-ce que s'il y a une scène qui vous vient à l'esprit, ou ne serait-ce qu'un geste qu'elle accomplit dans un plan qui pour vous est caractéristique de Salomé et Richard?
Alors, tu as gardé des trucs dans le scénario de fourchage de langue que j'ai
ouais,
pu dire.
Exactement, par exemple.
Le ratonnet, c'est se prendre un ratonnet.
Un ratonnet.
Non, le ratonnet, c'est Lazare. Mais par exemple, elle dit, c'est ma grand-mère, elle est en garde à vue, ça c'est en répétition, au lieu de dire en observation.
L'hôpital.
Elle a fourché et on l'a gardé et elle l'a refait mille fois hyper bien, comme si elle fourchait à chaque fois, donc c'est super. Voilà.
Il y a, je me disais, dans le regard que vous pouvez porter entre vous, Salomé Richard, et vous, Rachel Long, cette idée de double dont parlait Martin, peut-être c'est aussi quelque chose que vous ressentez, vous, Pio Marmaille, avec Rémi Besançon. Je me dis quand même, c'est le cinquième long métrage que vous ayez fait ensemble, c'était Nos Futurs, vous avez peut-être encore d'autres
le
projets.
Cinquième
oh, putain, le cinquième long métrage de Rémi Besançon, c'est
ah oui, non, ouais. Ouais, on a fait trois, ouais. J'ai flippé, je me suis dit d'un coup, c'est les deux qui sont arrivés d'un coup en plus.
Le cinquième de ouais. Rémi Besançon, c'est Nos Futurs, vous êtes son acteur ouais. Fétiche. Est-ce qu'il y a,
fétiche, je ne sais pas, vous ne savez pas notre relation
vous
privée.
Êtes le Salomé Richard de Besançon.
Exactement, je suis un peu le Salomé Richard, ouais, c'est ça, de Rémi Besançon.
Est-ce que vous sentez ça en dans ce travail avec lui, ce travail de double et d'incarnation
de double,
à l'écran
comme vous venez de dire. Moi, j'aime aussi ce mot de double. Non, quelque part, oui, après, là, par exemple, je retravaille avec Pierre Salvadori je suis assez heureux de pouvoir me dire qu'il y a une sorte de porte ouverte comme ça avec des metteurs en scène avec qui j'ai envie de retravailler, avec qui il y a pas seulement qu'une dimension de travail, de création commune Mais c'est aussi quelque chose de l'ordre de l'humain, très simple. Moi, je suis pas à la recherche de tension, du quoi que ce soit. Ça ne m'intéresse absolument pas. Je suis là pour créer avec des gens, avec une équipe, et qu'il y a un truc commun qui se fabrique ensemble. En l'occurrence, avec Rémi, c'est une chose qui perdure depuis 3 films. Et puis c'est long quand même, 10 ans de travail comme ça. Ça peut, des fois on s'arrache la gueule, des fois c'est agréable. Des fois on a le sentiment de faire quelque chose de super, des fois on a le sentiment de faire quelque chose de moins bien.
Il y a Rachel Lang, Salomé Richard, qui opine du chef. Vous arrachez la gueule comme dit Pio Marmaille.
Non mais c'est normal, heureusement.
C'est clair, Salomé elle a eu son permis 2 semaines avant le tournage. C'est quand même la pire angoisse pour un réalisateur. Alors que t'es prêt à tourner, d'attendre.
Sachant qu'il y a 20 minutes de scène de conduite.
Mais sachant que ça fait 4 ans qu'elle sait qu'elle doit passer son permis et qu'elle le fait pas.
4 ans t'exagères un petit peu.
Ouais, 4 ans si. Ouais, donc c'est un peu non, c'est chaud.
Oui, je suis d'accord, je suis d'accord avec vous. Mais oh pardon.
Eh oui, on est sur France Culture. C'est toute la chorégraphie des signes. Hein. Vous êtes sur France Culture, vous écoutez Ping Pong, l'émission qui vole des voitures.
À suivre, excès de vitesse et criminel culte avec nos invités Pio Marmaille, Rachel Lang et Salomé Richard.
Mais tout de suite, pied au plancher avec Zoé Sfez pour le Journal de la Culture.
Ping-pong. Elle est là parce qu'elle n'a jamais eu son permis, donc la vie est bien faite.
Vous êtes venue en hélicoptère, Zoé, du coup ? Zoé, ce soir, vous consacrez votre dossier à la fermeture à Paris de la Comédie Italienne, un minuscule théâtre situé dans le quartier de la Gaîté à Paris, qui existait depuis 42 ans, une véritable originalité, puisqu'il pratiquait exclusivement la Commedia dell'arte baroque fantastique. Son fondateur et propriétaire, le metteur en scène italien Attilio Maggiulli, vient de mettre la clé sous la porte, après avoir tout tenté, même des démarches dangereuses pour le sauver.
Ouais, alors, il faut comprendre que ce théâtre était une institution pour les enfants parisiens, pour les guides étrangers qui tous le mentionnaient. C'était un espèce de tout petit écrin multicolore dans la rue de la Gaîté, donc quartier des théâtres. On y pratiquait depuis 1974 la Commedia dell'arte baroque, puisqu'il faut savoir, petit rappel historique, que la présence des troupes italiennes en France fait partie de l'histoire, tout simplement. Tour à tour invités, chassés par les différents rois et les différents dévots, les comédiens italiens ont profondément influencé, pour ne pas dire largement façonné, le théâtre français. Sous Louis XIV, bien entendu, c'est justement la Commedia dell'arte baroque, et puis bien plus tard, avec Beaumarchais, le maître italien Goldoni, d'ailleurs on le sait peu, est mort à Paris dans la misère. Avec l'avènement du drame, le fameux drame au 19e siècle, il a disparu de la capitale française. Et c'est Attilio Maggiulli, italien, formé au Piccolo Théâtre de Milan par le mythique metteur en scène Giorgio Stoller, qui s'est, sur ses conseils, lancé dans l'ouverture de ce lieu à Paris en 1974, même si tout de suite le fonctionnement financier d'un tel théâtre s'est avéré assez problématique.
Allez, on va t'aider, il faut que tu ouvres une comédie italienne actuelle. Et donc en 1974, avec mon épouse, la comédienne Hélène Estrade, nous avons ouvert cette comédie italienne, mais surtout avec l'aide des amis de Giorgio Strehler, le grand metteur en scène italien. Donc ses amis, c'était Roland Barthes, Samuel Beckett, Roger Blin, Bresson, Calvino, Jean Baudrillard, Jean-Louis Barrault, voilà. Et à chaque fois qu'on avait des problèmes, ils mettaient la main à la poche, assez souvent. Le théâtre a toujours été problématique, vu la capacité du lieu, qui est même pas de 100 places, avec une troupe permanente à l'appui. Qui dit troupe permanente, dans le théâtre italien, c'est minimum 9 comédiens. Nous avons énormément trimé. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y avait aux institutions, des gens de culture, Robert Abirached, comme Bernard Dorff, comme Bruno Racine, comme Ayago, des gens qui effectivement comprenaient et savaient qu'est-ce que c'est qu'une troupe permanente. Ils nous ont aidés.
Et pendant plus de 30 ans, Zoé, la comédie italienne a été subventionnée.
Oui, alors il y a jusqu'à 5 ans quasiment, il y avait une subvention donc de l'État, une subvention de la ville de Paris et une autre du Conseil régional d'Île-de-France, des subventions assez petites, mais qui suffisaient à faire tourner le théâtre, explique Attilio, avec une économie harpagonienne, dit-il. Alors le principe est immuable, 2 à 3 pièces par an seulement, des pièces du répertoire qui fonctionnent, on le rappelle, sur un canevas et beaucoup d'improvisation. Problème, c'est une sorte d'anomalie finalement dans le paysage du théâtre français et qui ne remplit pas assez le cahier des charges de ce que doit être un théâtre pour être subventionné, pas assez de création, 9 comédiens qui ne changent jamais. Et la mairie de Paris, très vite, décide de se dégager. Elle dit qu'elle regrette un manque de renouvellement des répertoires, mais aussi des publics. Très vite, la troupe perd donc son soutien à la ville de Paris et se retrouve menacée de manière financière assez rapidement. Attilio Maggiulli défend pourtant son bilan et son rôle unique.
On se dit, voilà, pendant très longtemps, il n'y a pas eu un théâtre italien Il n'y a pas eu ce genre de théâtre unique au monde. On est les seuls au monde à pratiquer la comédie dell'arte baroque fantastique. Il y a plein de théâtres qui font de la comédie dell'arte, mais ils font de la comédie dell'arte de très tôt. De très tôt, c'est-à-dire qu'ils font la primitive. Nous avons aussi proposé l'enseignement de la comédie dell'arte baroque fantastique à pas mal de jeunes comédiens, aux enseignants, afin qu'ils puissent expliquer quelle est la façon d'arriver à jouer Sganarelle ou Molière en général à travers les pièces des auteurs italiens, les personnages clés de la comédie dell'arte. En même temps, nous jouons des pièces pour les enfants, mais aussi énormément un public de quartier.
Et c'est d'ailleurs le public qui, pendant plusieurs années, Zoé, va faire vivre ce théâtre italien de Paris.
Oui, après le désistement de la ville de Paris, qui donc en off, clairement nous dit que le projet du théâtre n'était plus assez ambitieux. D'après nos informations, il y a quand même eu des vives tensions avec la mairie du 14e qui souhaitait le soutenir. Le fait est que la ville essaie d'hésiter. Le théâtre a recours beaucoup au crowdfunding, donc financement participatif, lève plusieurs fois, sans difficulté, plusieurs dizaines de milliers d'euros, notamment pour monter des pièces grâce à ses fidèles spectateurs. Mais l'État menace lui aussi de se désengager. C'est là qu'Attilio Maggiulli, il y a 3 ans, dans un moment de spleen sévère qu'il reconnaît être un peu compliqué, a pris sa voiture et décide d'aller emboutir le portail de l'Élysée pour protester contre l'indifférence des pouvoirs publics. Il est très vite inculpé pour atteinte à la sûreté de l'État. Il passe 2 ans à Sainte-Anne, enterré. Et alors, de ce fait, très difficile du coup de défendre son cas devant le ministère, qui lui retire évidemment sa subvention, lui dit ne pas garder en tout cas de rancœur spécialement sur cet épisode qui a quand même été très difficile pour lui, mais il a quand même décidé, après l'automne très compliqué qu'on vient de passer, de mettre la clé sous la porte.
À partir du moment où on a constaté que Vigipirate nous avait enlevé toutes les écoles, tous les centres aérés pour les pièces et pour enfants, on a tenu, mais on ne peut pas vivre de mendicité toujours, tout le temps, en demandant à nos spectateurs de nous aider à continuer. Donc on a mis les murs du théâtre en hypothèque, voilà, de façon à pouvoir rembourser le maximum possible de personnes. C'est l'humiliation profonde de la part de personnes qu'avec la culture n'ont rien à voir, vous voyez, je sais pas, il y a un vide intellectuel complètement. On nous a même traité de ringards, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne sais pas ce qu'on va devenir.
Voilà, alors en tout cas, pour rembourser ces différentes dettes payées, les derniers comédiens, le théâtre vend maintenant ses costumes, ça aura lieu donc au théâtre à partir du 17 mai prochain.
On réagira tout à l'heure avec nos invités Zoé Saz, notamment Pio Marmaille, qui a été formé à la Comédia dell'Arte. Mais tout de suite, les brèves avec des notes de musique en berne.
Oui, 2 disparitions dans 2 groupes qui ont imposé une marque assez singulière. Tout d'abord, le chef d'orchestre du groupe ivoirien Magic System et le batteur Didier Bonaventure Denia, dit Pepito, et qui est mort par noyade dimanche à 46 ans. Il a essayé de sauver quelqu'un le long de la côte ivoirienne, réputée très très dangereuse. Il était donc l'un des cofondateurs du groupe ivoirien, devenu mythique, lancé en 97 par 4 garçons issus des quartiers populaires d'Abidjan, qui a conquis leur pays et puis évidemment la France et le monde entier. Ce décès survient 1 semaine après celui du musicien congolais Papa Wemba, qui lui-même se produisait à Abidjan à l'invitation justement de Magic System.
Autre disparition, celle du soulman indien Slow Joe.
Une figure qu'on aimait bien ici, on l'avait reçu, ce personnage assez singulier 2 fois sur France Culture dans Le Rendez-vous. Joey Rocha avait 73 ans, il était né à Goa, en Inde, bercé par la chanson américaine et le blues. Il vit presque en clochard. Quant à 64 ans, il croise le chemin du musicien lyonnais Cédric Lachapelle, qui est séduit par sa voix de crooner. Leur groupe, baptisé Slow Joe and the Ginger Accident, avait produit 2 albums, Sunny Side Up en 2011 et Lost for Love en 2014, salués par la presse et le public, qui a fait de nombreuses tournées. Il préparait un 3e album.
L'information avait fait beaucoup réagir. Le plus grand crescendo du monde, le Boléro de Ravel, était tombé dans le domaine public. Oui, c'est bien le cas, mais les ayants droit continuent à négocier.
C'est ce qu'on vient d'apprendre. Je rappelle que le dimanche 1er mai, le Boléro de Ravel, l'œuvre française qui rapporte le plus d'argent au monde, devait tomber dans le domaine public. Mais on l'a appris dans le plus grand secret. De nouveaux prétendants à l'héritage négocient avec la SACEM pour avoir leur part du Boléro et repousser cette chute dans le domaine public de 20 ans. Ils veulent faire reconnaître la partition de Ravel comme une œuvre collaborative, puisque c'était à la base un ballet pour le chorégraphe Serge Liffard. La SACEM a rejeté leur demande, mais ils pourraient désormais aller devant les tribunaux. Et alors donc, Pio Marmaille, je vous voyais réagir de manière très virulente pendant ce dossier du jour sur le principe du théâtre de la Commedia dell'arte, et vous le disiez, vous vous en avez fait.
Oui.
Est-ce qu'on a toujours la place d'ailleurs pour ce type de théâtre, avec tout ce que ça peut comporter structurellement comme problématique, comme risque, comme on l'a entendu là?
Après, je pense que la question de la problématique, elle est complètement farfelue et inintéressante. La problématique de la comédie de l'art ou n'importe quelle forme de théâtre, elle est complètement inintéressante dans quand on parle de théâtre public ou de théâtre qui est subventionné. Ça n'a aucun sens de parler de nécessité ou quoi. Ça existe, donc c'est là. Moi, ce qui fait que j'imagine sur mon petit siège à France Culture, c'est simplement, au-delà du fait que j'ai été formé par Antonio Fava à Reggio Emilia en faisant de la comédie de l'art pendant un an, mais c'était à court, mais en même temps, j'ai continué à travailler après en France. Ce qui me rend hystérique, c'est très simplement, c'est cette forme de disparition de l'artisanat et cette forme aussi de regard, je dirais, de la part de l'État, en tout cas, d'une forme d'État dans une ville qui estime que, et qui dit, et c'est ça qui me rend assez qui m'énerve d'une certaine manière, c'est de dire, mais attendez, il faut absolument renouveler cette forme de théâtre. Mais rendez-vous compte que c'est un théâtre qui existe depuis le 18e, même avant. Des prémices, et qu'effectivement, on ne peut pas renouveler comme ça de manière très simple. C'est un répertoire qu'il faut respecter, ce sont des codes de jeu qu'il faut respecter, ce sont des codes de jeu qu'on apprend en famille depuis plus de 300 ans, et que quelque part, c'est un peu facile de dire effectivement, oui, ça ne rapporte plus d'argent, alors qu'on est en train de parler d'un micro-théâtre qui concerne très peu de gens, effectivement, mais où il y a un public qui vient, on parlait du crowdfunding, qui a fait en sorte que ce théâtre puisse perdurer, et on parlait de Stroller ou d'autres mecs, de gens qui ont participé aussi à l'existence de ce théâtre-là, et que d'un coup, effectivement, que certaines personnes se disent, bon, effectivement, ça ne rapporte plus, ça ne correspond plus à une espèce d'attente comme ça contemporaine d'une forme de théâtre ou quoi, et du coup on va l'évacuer, on va l'évincer. Je dis pas ça par compassion, par pitié ou quoi que ce soit, c'est juste un constat général par rapport à la culture en France, par rapport à l'exception culturelle où quelque part effectivement si on ne fait pas attention un micro endroit à ce que c'est l'artisanat, à ce que c'est entretenir aussi des formes un peu passées forcément, qui ne sont pas à la pointe de la performance, à la pointe de la forme contemporaine de création. Si on fait pas attention à ce qui a été fait en amont, on va se casser la gueule, quoi. Il faut juste être un peu vigilant, c'est tout ce que je dis. Et moi, quelque part, ça mérite, quoi. Ça me rend un peu triste, quoi.
Rachel Lang, la Comédie de l'Art, c'est un patrimoine qui palpite encore au cœur et dans le corps de comédiens de Pio Marmaille. Vous, ça a pu vous nourrir jusque dans Baden-Baden, où il y a des scènes très burlesques.
Ouais, carrément. Après, là, je le vois pétiller dans Pio Marmaille, qui bondit sur sa chaise.
Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est quand même dingue, quoi.
Mais ouais, non, c'est vrai.
C'est un peu, si on s'érige pas contre ça, à un moment, qu'est-ce qui nous reste, quoi? Enfin, tu vois, effectivement, il reste plein de choses. Oui, on va aller, on aura toujours du jambon, de la bière, on aura toujours la radio. Mais je veux dire, si on s'érige pas...
Et c'est le problème de la rentabilité, quoi. C'est comme, nos films, ils sortent demain, c'est grand soleil, et ben, ils vont rester 3 jours, et puis...
Il faut des salles vides.
Attendez.
Les acteurs culturels qui le disent.
Attendez vendredi. Vendredi, tout va se casser la gueule. Mais c'est vrai.
C'est important de défendre les salles vides.
Pas forcément les vides, mais je pense que c'est même nous, en tant que jeunes, enfin, on a tous le même âge à peu près autour de cette table. L'idée, c'est quand même de se rendre compte de la fragilité de la culture et de la création en France. Je parle pas de ça par rapport à la France, que je m'en fous de ça. Je parle un truc de fond. C'est la position qu'on a en tant qu'artiste, le luxe qu'on a en tant que gens qui sont écoutés, qui sont créateurs, il faut un peu être vigilant, quoi. C'est tout ce que je dis, simplement. Voilà.
Ping pong. La culture sans limite.
Vous êtes
dans l'habitacle tapissé de cuir d'une voiture Porsche, dans une Porsche volée. Vous êtes aux côtés d'Anna, vous écoutez La Femme, la chanson Si un jour, vous secouez la tête. Vous êtes dans Baden Baden, le premier long métrage de Rachel Lang avec Salomé Richard dans le rôle d'Anna en salle demain, qu'il y ait du soleil ou non. Ce Baden Baden, Rachel Lang, il se déroule le temps d'un été. Il y a un rythme tour à tour alangui, étiré comme une grasse matinée d'Anna, et puis parfois sec, comme un coup de masse maladroit qui pourrait vous provoquer un AVC. Comment est-ce que vous avez conçu, puisqu'on parlait de la Commedia dell'arte et de tout ce travail de la comédie, le tempo, la partition de justement de cette comédie qu'est Baden Baden?
Eh ben, j'ai construit des blocs et j'ai voulu qu'ils s'entrechoquent un peu comme dans la vie, pas comme dans un scénario, c'est-à-dire pas hyper millimétré où on explique tout, et un peu des blocs à l'état brut qui sont une matière organique qui fait bam bam bam, qui s'entrechoquent. Des fois il y a des moments un peu dissolus, des fois il y a des moments hyper speed, et des fois il y a des moments drôles, des fois on pleure, et puis voilà, c'est un peu comme ça. Un objet très qui a été très difficile au niveau du rythme à concevoir, parce que justement c'est il y a un rythme comme ça un peu organique, dissolu.
Vous l'avez ressenti, vous, Salomé Richard, dans votre corps, dans sur le tournage, sur le plateau, la nécessité de changer de rythme et de cet entrechoquement?
Bah, c'est-à-dire que effectivement en tant que comédien, il faut de toute manière trouver le rythme d'une scène. Si le rythme fonctionne pas, ça marche pas de toute manière. Donc faut ralentir certaines choses, en accélérer d'autres, et c'est ça qui souvent fait jouer le ressort comique, en fait. C'est vraiment des questions de rythme, et je pense qu'avec Lazare, on a réussi à...
Lazare Gousseau, avec qui vous fabriquez une nouvelle salle de bain pour votre grand-mère.
Exactement.
Et à qui vous mettez un ratounet.
Exactement aussi. Bah, c'est toutes sortes de questions de rythme. Lazare est super habile avec ce genre de choses. J'espère l'être aussi. Et je pense que notre duo fonctionne bien, justement, par rapport, enfin, sur des questions de rythme, justement, quoi. Voilà.
Il y a aussi un duo avec Madeleine Jansac, il faut le rappeler, hein, qui est votre grand-mère et qui joue avec Louis de Funès, etc. Donc là aussi, il y avait un tempo comique à trouver avec quelqu'un qui sait le pratiquer.
Exactement. Mais Claude et moi, par exemple, on n'a pas du tout le même tempo. Claude vient d'une école qui est complètement différente. Elle a une phraséologie qui est différente de la mienne. Elle a une façon de formuler les mots, de dire vraiment toutes les consonnes, toutes les voyelles, enfin vraiment une très grande habileté à dire la langue que j'envie, je dois l'admettre. Et je pense que justement ce décalage au niveau du rythme est assez frappant et restitue bien, je trouve, le rapport qu'on peut avoir avec ses grands-parents. C'est-à-dire on parle jamais de la même manière avec sa grand-mère qu'on parle avec ses copains, quoi. Et je pense que ce décalage au niveau de la façon de jouer et du rythme qu'ont nos deux langues différentes retranscrit bien ce rapport qu'on a avec ses grands-parents, en fait.
Roberto Zucco s'est échappé, encore une fois. Zucco ! Zucco ! Dis-nous, comment tu fais pour ne pas rester une heure en prison ? Comment tu fais ? Par où as-tu filé ? Donne-nous la filière.
Par le haut. Il ne faut pas chercher à traverser les murs, parce que au-delà des murs, il y a d'autres murs, il y a toujours la prison. Il faut s'échapper par les toits, vers le soleil. On ne mettra jamais un mur entre le soleil et la terre.
Et les gardiens ?
Les gardiens n'existent pas. Il suffit de ne pas les voir. De toute façon, je pourrais en prendre 5 dans une seule main et les écraser d'un coup.
D'où te vient ta force, Zucco ? D'où te vient ta force ?
Quand j'avance, je fonce, je ne vois pas les obstacles. Et comme je ne les ai pas regardés, ils tombent tout seuls devant moi. Je suis solitaire et fort. Je suis un rhinocéros.
Mais ton père et ta mère, Zucco, il ne faut pas toucher à ses parents.
Il est normal de tuer ses parents.
Mais il est normal de tuer ses parents. Roberto Zucco, hein, le texte, c'est Bernard-Marie Coltès, c'est une Ferrari. La mise en scène, c'est Richard Brunel, l'un de vos maîtres. On parle dans le film Vendeur de Sylvain Desclou, vous incarnez ce jeune vendeur Gérald, de knowledge transfer. On prononce ce genre de petits termes assez comme ça.
Assez Twitter.
De corporation assez ridicule. Vous, il y a eu quoi comme knowledge transfer, par exemple, avec Richard Brunel, qui est justement l'un de vos maîtres, à qui vous vous référez notamment pour le théâtre, mais en tant que comédien et aussi en tant que metteur en scène? C'est quelque chose que vous poursuivez, Pio Marmaille?
Knowledge transfer.
Alors, transfert, écoute, de connaissances, hein, dans la langue à Molière.
Et c'est aussi bien de le préciser. Non, j'ai pas de knowledge transfer à quiconque, d'ailleurs. Je pense que c'est plus un endroit de rencontre comme ça qu'il y a pu y avoir au théâtre, en tout cas avec Richard. Il y a assez longtemps, parce que moi j'ai fait Saint-Étienne, l'école, je suis sorti à 10 ans, et puis lui il a fait un peu avant moi. Et puis on se tourne un peu autour, après il a dirigé Valence, le CDN, et puis je suis devenu artiste associé au CDN. Et puis on a créé des trucs ensemble, des petites formes, moi j'avais fait des spectacles là-bas, et puis des petites choses. Mais il y avait, moi j'avais envie de retravailler au théâtre, ça fait 7 ans que je n'avais pas travaillé au théâtre, parce qu'à un moment tu fais des films et puis tu rentres dans une sorte de logique comme ça, de facilité, tu fais des films. Et il y a un moment effectivement je...
Vous dites, c'est là que vous le sentez le plus créatif, le théâtre. C'était il y a quelques mois, Roberto Zucco.
Plus créatif, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, maintenant, je pense pas que c'est un truc de quantitatif, en tout cas de plus ou de moins, en me disant est-ce que je suis plus créatif au théâtre ou au cinéma. Je pense que c'est plus un truc de se sentir un peu utile à un endroit de création. C'est plus ça. Et en tout cas, ça faisait plus quelques projets au cinéma où je me disais, tiens, je me sentais plus fébrile à un endroit où je me sentais pas forcément, j'avais pas l'impression de nourrir autant que les gens avec qui je travaillais qu'eux me nourrissaient. Et là, c'est vrai que retrait au théâtre, ça m'a rendu heureux de vivre, bon Dieu de merde, mais complètement, quoi.
Zoé, le disque du jour va-t-il nous rendre fébrile? Va-t-il nous sentir utile ou bon Dieu de merde nous rendre heureux?
Eh ben, je crois qu'on est plutôt de ce côté-là, quoi. C'est un groupe, ce groupe dont on parle aujourd'hui dans le disque du jour, qui justement pratique un petit peu la musique comme une espèce de forme de combat, de boxe, c'est The Bell Race. Donc un groupe américain californien, plus précisément, et c'est deux personnes assez extraordinaires, une femme, la puissante chanteuse Lisa Cacuella, qui donc vient là avec toute la puissance du blues et de la soul, et Bob Venom, son comparse, qui lui est un petit guitariste qui apporte toute sa connaissance du blues et aussi du rock garage. Le tout se révèle clairement sur scène et ça tombe bien puisqu'ils sont en concert au Divan du Monde demain dans le cadre du Cool Soul Festival. On écoute pour l'occasion un morceau français de leur dernier album. Leur dernier album s'appelle A Little Faith et ils ont fait une sublime reprise de Nino Ferrer, Les Cornichons.
Des macarons au tire-bouchon, des petites pierres et des lapins, des cornichons. On avait les oubliés, c'est maman qui étouffait. Elle avait travaillé 3 jours sans arrêter. Pour préparer les beignets, les boîtes, les paquets et la radio. Les poulets froids, les mayonnaises, les chocolats, les champignons, les œufs bois et les tomates.
Les cornichons avec la sublime voix de Lisa Cacuella. Cet extrait du dernier album des Bell Rays, The Little Face. Ils sont donc en concert demain au Divan du Monde, le 4 mai. 4 et 5 mai, n'oubliez pas, c'est le Cool Soul Festival. Bon.
Bah alors, Pio Marmaille avait apporté du jambon d'Aoste, du saucisson, de la bière, mais pas de cornichons. Il faudra faire quelque chose demain pour le disque du jour et le journal de la culture, Zoé.
Ping-pong! It's already over.
C'est déjà fini, comme on dit en italien. Merci beaucoup à tous trois. Rachel Lang, Salomé Richard et Pio Marmaille. Rachel Lang et Salomé Richard, vous faites une association de malfaiteurs pour Baden Baden, une comédie romantique, désopilante et bricoleuse.
Tout ça, ouais, super.
En salle demain, Pio Marmaille, vous jouez aussi demain dans les salles obscures, juste la salle d'à côté de Baden-Baden, dans Vendeur, de Sylvain Desclous, avec notamment Gilbert Melki.
Le ping-pong est un apéritif radiophonique qui se prépare en équipe. Et quelle équipe? À la rédaction, Aïssa Touendoy, Hélène Delis, Chloé Leblon et Mathilde Cadreau. À la réalisation et la programmation, Thomas Beau, je souris car Pio Marmaille sort vite, rapidement, rejoindre les toilettes. À la prise de son, Jean-Guilain Meuge et Élise Le, nous avons tout dit.
Le ping-pong, une dernière chose que nous n'avons pas dite, il se retrouve sur France Culture et se pratique ainsi pendant l'éternité et un jour. Quand sera-t-il demain, Mathilde?
Demain, une émission chasse et pêche dans Ping-Pong, une fois n'est pas coutume, avec Claude Dantonez, commissaire de l'exposition Safari Safarix, et Richard Guettet, auteur de L'Aimant, roman magnétique d'aventure maritime.